Je remercie particulièrement et très brièvement, évidemment, les organisateurs du colloque, et je remercie tout particulièrement, évidemment, François Brunet pour m'avoir placé à cette position stratégique d'avoir à conclure la matinée avant le déjeuner et d'avoir à faire très vite, non pas sans vous endormir, là-dessus je n'ai aucune crainte, la faim vous maintiendra éveillé. Alors, je suis ravi, évidemment, de retrouver ici les membres du jury et mes camarades, mais j'ai toujours une petite appréhension à utiliser le terme « camarade » tant il paraît parfois connoté politiquement. Et peut-être devrais-je utiliser désormais, l'événement y prête, le terme de « collègue ». Et ce d'autant plus à une époque où il est devenu de bon ton de n'être ni de droite ni de gauche. Il n'empêche que cette neutralité en politique que je viens de découvrir, pour autant qu'elle existe autrement que dans le discours, se distingue de la neutralité politique en tant que principe juridique. Très brièvement, peut-être un petit peu plus longuement qu'en 5 minutes, j'exposerai ce qu'est le principe de neutralité politique en partant de cette idée qu'il s'agit, en droit, de faire obstacle à l'expression de convictions religieuses, politiques ou philosophiques sur la neutralité en général. Je me concentrerai sur la possibilité de faire obstacle à l'expression de convictions politiques. En matière de service public, il s'agit plus précisément d'éviter une politisation excessive du fonctionnement de l'administration. Alors pourquoi les collectivités territoriales ? Parce que celles-ci sont dans une situation particulière et en tension. Elles sont en tension parce que d'un côté, et c'est reconnu depuis longtemps, les élections locales sont des élections politiques. Pour autant, et sans aller jusqu'au bout du raisonnement que semble initier cette première considération, il s'agit bien, en définitive, d'institutions administratives qui ne sont pas juridiquement qualifiées d'institutions politiques. Il s'agit donc d'institutions administratives résultant d'élections politiques. La tension est tout de suite palpable et la question se pose de savoir si ça a un retentissement, une résonance dans le droit qui leur est applicable. Si l'on va chercher un peu loin, on se souvient que la loi 1884, la grande loi municipale, avait interdit en rupture avec les textes antérieurs que les collectivités territoriales, bon, enfin la loi municipale, les communes, émettent des vœux politiques. Donc dès cette époque, et bien que cette règle ait disparu en 1982 avec la décentralisation, il apparaissait bien cette idée qu'il est interdit aux collectivités, il est interdit aux communes de se mêler de politique. Alors si l'on revient encore plus précisément sur le terrain du droit et que l'on cherche par exemple dans le Code général des collectivités territoriales des prohibitions de cette nature, on est bien en peine. Lorsque l'on cherche l'entrée politique et pas neutralité, on trouve l'expression de toutes les politiques publiques dont sont chargées les collectivités territoriales et à la marge l'adjectif politique attaché à divers groupements qui participent au fonctionnement des institutions. Mais en dehors de ça, le politique, l'adjectif politique sont tout à fait absents des dispositions. Dès lors, pourquoi s'intéresser plus particulièrement à ces collectivités territoriales et à ce phénomène politique qui semble absent du droit ? Eh bien, tout dépend, et c'est l'une des difficultés de la question, de la signification que l'on donne au terme de neutralité politique. La chose a déjà été évoquée ces 2 derniers jours, sans doute dans une question bien trop longue hier en fin de journée, mais il y a plusieurs façons de comprendre la neutralité en général, la neutralité politique en particulier. Au moins 3, et j'essayerai de vous exposer ces 3 significations. La première consiste d'une certaine façon à rapprocher la neutralité politique de l'égalité ou de l'impartialité. L'impartialité consistant à ne pas prendre parti, et hors du contexte juridictionnel, l'impartialité de l'action de l'administration ne se distingue pas véritablement de la prohibition de traiter différemment les usagers sur la base d'un critère, en l'espèce, politique. Ce sera le premier point. Ensuite, et c'est intéressant, dans le contexte particulier des collectivités territoriales, ce principe de neutralité politique prend une signification différente et il apparaît, c'était d'ailleurs un petit peu l'inspiration de la loi de 1884, comme le garant de l'ordre juridique mis en place par la décentralisation. Et dans cette signification, la neutralité politique a un sens tout à fait particulier pour les collectivités territoriales. Enfin, troisième temps, pour non pas faire la synthèse de ces 2 significations précédentes qui en réalité ne s'opposent pas du tout mais se complètent, on peut voir que les 2 se rapprochent et c'est sans doute là l'essence réelle du principe de neutralité aujourd'hui. Ces 2 significations se rapprochent sur le terrain de l'apparence. Parce que la plupart du temps, en réalité, la neutralité politique n'est qu'une manifestation de l'exigence de sauvegarde des apparences. Alors tout d'abord, la neutralité politique des collectivités territoriales ne serait qu'une déclinaison particulière de la question du respect du principe d'égalité ou du respect du principe d'impartialité. À cet égard-là, il n'y a aucune spécificité pour les collectivités territoriales et le principe de neutralité politique s'applique à elles comme il s'applique à l'État ou à d'autres services publics. On peut le décliner très rapidement dans deux domaines, une neutralité politique vis-à-vis des usagers du service public et une neutralité politique vis-à-vis des agents du service public. Bien évidemment, et tout d'abord, il est absolument impossible de discriminer les usagers du service public, les citoyens locaux, en fonction de leurs opinions politiques. On le conçoit assez facilement. Ça a donné lieu, malgré tout, à une jurisprudence intéressante ces dernières années, qui montre que l'on n'est jamais tout à fait protégé contre ce risque, sur un terrain un petit peu différent qui concernait, tout le monde s'en souviendra sans doute, la mise à disposition des locaux municipaux à certaines formations politiques, plus précisément le refus de mettre à disposition des locaux municipaux au Front National, puisque plusieurs mairies avaient successivement adressé ce refus à cette formation politique. Il a fallu l'intervention de plusieurs décisions juridictionnelles et même la codification dans le Code général des collectivités territoriales de cette exigence pour rappeler qu'il est impossible de refuser l'accès à des locaux municipaux sur la seule base du caractère de la formation politique. Alors cette vision du politique étant étendue, et ça c'est une idée qu'on va retrouver à plusieurs occasions, au-delà de la simple structuration partisane habituelle de l'échiquier politique, puisque cela valait aussi bien dans certaines décisions, particulièrement la jurisprudence est appelée comme telle, pour le Front National, mais on trouvait au moins aussi une décision où, dans une structuration politique locale où il n'y avait pas vraiment de parti, mais au moins où il y avait une majorité et une opposition, c'est à l'opposition, parce qu'elle était dans l'opposition, que l'accès à tous locaux était refusé. Cet aspect partisan est d'abord et avant tout attaché à notre structure en partie, mais pas uniquement. En ce qui concerne les agents, maintenant, même chose. D'ailleurs, pour un administrativiste, et reprenant l'influence sans doute de Guy Brébant sur ce point-là, on pense immédiatement à l'arrêt Barrel et tout est dit. On ne peut pas discriminer dans l'accès aux fonctions un agent en fonction de ses opinions politiques. Alors avec une exception qui n'est pas inintéressant de rappeler, le Conseil d'État l'avait consacré dans une affaire concernant la Polynésie française, et s'agissant plus particulièrement des fonctions des membres des cabinets. Lorsque l'on est à la frontière du politique et l'on revient à cette différenciation entre les organes administratifs et le caractère politique des élections, à la frontière du politique, dans des fonctions qui restent tout de même administratives, de collaborateurs de cabinet, les considérations politiques entrent en ligne de compte. Et le Conseil d'État, en 2009, à propos de la Polynésie française, a bien rappelé que ces fonctions, je cite, « requièrent nécessairement un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs qui guident l'action politique des élus ». Quand on est collaborateur d'élus, en revanche, cette fois, il n'est pas possible de faire l'impasse de ses opinions politiques et de se retrancher derrière sa neutralité, surtout pour échapper aux conséquences, puisque c'est là le principal de la perte de fidélité politique lorsque l'on est remercié sans ménagement et que ses fonctions cessent pour une divergence de vue. Alors, le politique, malgré tout, pose parfois quelques difficultés, et ce sera la conclusion de ce premier point, et uniquement de ce premier point, bien que j'ai épuisé mes 5 minutes. La notion de politique pose parfois des difficultés dans un cadre tout petit peu à part, raison pour laquelle je l'ai gardé en conclusion de ce premier point, qui était la tenue de manifestations politiques dans les locaux d'enseignement. En effet, dans ce cadre, l'institution et le juge sont attentifs à maintenir tout à la fois la liberté d'expression politique des usagers du service public, qui est a priori libre, sous la réserve bien sûr toujours de ne pas porter atteinte aux convictions politiques des différents usagers du service. Mais sur le point de savoir ce qui est politique et ce qui ne l'est pas, la position du juge administratif n'est pas toujours très claire. En effet, s'il a pu, par exemple, interdire une manifestation liée à une campagne de boycott des échanges économiques avec un État particulier, compte tenu des territoires qu'il occupait par ailleurs, il a considéré que, et à vous manifester une forme d'étonnement, que la tenue d'une réunion de l'association SOS Racisme dans les locaux d'une école n'était pas une manifestation politique parce que SOS Racisme n'est pas un groupement politique. On pourrait discuter les choses bien longtemps, mais à réduire la question de l'égalité sur la base du seul critère de l'appartenance partisane à un groupement politique particulier, à un parti politique, il me semble que l'on s'éloigne beaucoup de la signification de la neutralité politique prise cette fois-là dans ce qu'est le caractère politique. Alors cette situation-là, on la retrouve dans toutes les administrations d'État comme des collectivités territoriales, mais les collectivités territoriales, c'est le deuxième point, sont dans une situation particulière du point de vue de la décentralisation, aussi bien aujourd'hui comme hier. Mon exemple de tout à l'heure concernait les vœux politiques issus de la loi de 1884, et il faut se souvenir que les lois sont parfois des simples réactions opportunes à certaines situations, et la loi de 1884 était très explicitement la réaction aux banquets républicains que l'on entendait faire cesser dans les différentes communes de France, mais plus de Navarre, le royaume ayant disparu. Et cette loi avait été prise très explicitement pour museler politiquement l'expression locale de divergences politiques avec le pouvoir central. Cette prohibition a disparu avec la décentralisation, mais le rapport de dépendance des collectivités territoriales à l'État, lui, n'a pas disparu. Et on retrouve ça et là encore dans la jurisprudence administrative la prohibition de certains comportements des collectivités territoriales parce qu'ils sont considérés comme politiques. Quelques exemples l'illustrent bien autant qu'ils illustrent les ambiguïtés de la règle. En effet, le Conseil d'État, notamment en 2005, dans un arrêt commune d'Argentan, a autorisé le versement de subventions sous réserve qu'elles ne soient pas attribuées pour des motifs politiques. Alors évidemment, il convenait de se demander ce que sont ces motifs politiques. Et pour faire le lien avec le sujet et rester strict sur les notions que j'entendais exposer, le commissaire du gouvernement, rapporteur public, avait expressément fait le lien entre les motifs politiques invoqués dans le corps de la décision et le principe de neutralité du service public qui, pour lui, fondait cette prohibition. Plus précisément, et d'un point de vue opérationnel, cette prohibition concernait notamment la possibilité de verser des subventions amenant la collectivité à prendre parti dans un conflit national, dans un conflit international ou dans un conflit collectif du travail. On retrouve bien cette logique de prise à partie dans des conflits qui sont peut-être un petit peu extérieurs à l'action publique. Il est interdit aux collectivités territoriales de prendre parti. Et on voit bien la différence qu'il existe à ce moment-là entre les collectivités territoriales et l'État. Même si on pourrait discuter la possibilité pour l'État de subventionner un piquet de grève, en revanche, il est tout à fait certain que l'État, dans le cadre de son action internationale, disposant de la souveraineté à cet égard, peut subventionner divers mouvements de résistance dans d'autres pays. L'envoi, dans une jurisprudence classique souvent citée dans le cours de droit administratif, d'ambulances en Espagne, n'ayant pas été considéré pendant la guerre civile comme contraire à ce principe. Alors, le problème, c'est que ce principe de neutralité politique, parfois, on ne le retrouve pas dans des arrêts qui pourtant permettent d'aboutir au même résultat, arrêts dans lesquels le Conseil d'État fait appel à la notion d'intérêt public communal. Intérêt public local, d'une manière générale, qui finalement amène à s'interroger sur l'utilité, sur l'existence d'un principe de neutralité politique, puisque finalement, n'aboutirait-on pas au même résultat en invoquant l'intérêt public local? Est-ce que le principe de neutralité politique du service public, ajoute quelque chose à cette notion d'intérêt public local qui finalement, elle, et par essence, symbolise la subordination des collectivités territoriales par rapport à l'État? Une affaire d'ailleurs est révélatrice, affaire qui concernait un conseil général qui, dans son bulletin, avait décidé de prendre parti pour le non au référendum pour ou contre l'adhésion au traité de Maastricht. Et le Conseil d'État avait considéré qu'il y avait là un document de propagande électorale en vue d'un scrutin national qui était tout à fait en dehors des compétences de la collectivité territoriale, sans faire explicitement appel au principe de neutralité politique, mais en se fondant sur l'intérêt communal. Alors cette affaire est intéressante parce qu'elle permet de faire le lien avec l'attitude de boutiquier que certains fustigeaient hier. Le doyen Favoreux avait commis une consultation sur le sujet, considérant que dès lors que les vœux politiques étaient autorisés depuis 1982, il ne voyait aucun obstacle à ce qu'une collectivité prenne part à un débat national et décide donc de s'exprimer pour ou contre cette question. Bien sûr, ce point mériterait d'être discuté. Cette deuxième signification va trouver un prolongement, mais un petit peu dérivé, dans la troisième qui, elle, est liée à la théorie des apparences. Cette théorie des apparences, elle apparaît très nettement dans un arrêt qui me semble extrêmement problématique de 2005, commune de Sainte-Anne. Dans celui-ci, dans la commune de Sainte-Anne, en Martinique, il avait été sanctionné le fait d'avoir décidé d'arborer, de pavoiser sur le bâtiment municipal un drapeau rouge, vert et noir, symbole d'indépendantisme. Le Conseil d'État avait considéré que, certes, ça n'était pas l'emblème d'un parti politique déterminé, mais le symbole d'une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique. Il était donc tout à fait impossible d'arborer ces couleurs sur le bâtiment municipal. Dans le prolongement, des juridictions du fond avaient aussi interdit, par exemple, d'afficher un portrait du maréchal Pétain dans les locaux municipaux, exactement sur le même fondement. Mais ces deux solutions interrogent. La collectivité cessera-t-elle d'être indépendantiste, étant entendu qu'il est fort probable qu'ils aient été élus sur ce programme et sous cette étiquette, en n'affichant plus les couleurs? Pour le pétainisme, on pourrait discuter un petit peu plus les choses. J'ai 3 minutes. Vous aurez remarqué la dilatation du temps, puisque jusque-là, je n'en ai consommé que 2. Proportionnellement, je dispose donc encore de 2 fois, 1 fois et demie le temps que j'ai déjà utilisé. Merci beaucoup, Thomas. Ces deux solutions interrogent. Si la prohibition de l'affichage du portrait du maréchal Pétain peut tout de même renvoyer un certain nombre d'atrocités commises sous le régime de l'État français, et si, bien évidemment, la proclamation de revendication indépendantiste peut être considérée comme tout à fait contraire au principe d'indivisibilité de la République, est-ce que, une nouvelle fois, et la question a été formulée précédemment, ces collectivités cesseront, les élus cesseront de penser de cette façon si l'on n'affiche pas ces couleurs, si, comme on dit vulgairement, on n'affiche pas la couleur? Si l'on change un tout petit peu de contexte et que l'on réfléchit non pas à l'affichage de couleurs indépendantistes, mais d'une manière extrêmement spontanée, à l'affichage de la couleur politique de l'équipe municipale sur les murs de la collectivité. Cesse-t-il tout d'un coup d'être politisé dans la marge de pouvoir discrétionnaire qui leur est conférée par les textes, une fois leur élection obtenue, et cesse-t-il par conséquent de mettre en œuvre les idées politiques qu'ils ont développées dans un programme, tout le monde ici sachant bien que le programme engage le candidat, celui-ci s'engageant ensuite à le mettre en œuvre. Il y a bien évidemment une théorie des apparences, ce faisant, il y a l'apparence d'impartialité, il y a l'apparence d'absence de caractère politique de la décision, celle-ci bien sûr étant enserrée dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire. Une nouvelle fois, ces choses ne sont pas nouvelles et on peut se souvenir, pour annoncer ma conclusion qui arrive instamment, que à la suite du vote de la loi du 20 janvier 1874 qui avait redonné aux mains du pouvoir central l'élection des maires, le duc de Breuil avait fait enlever dans toutes les mairies de France le portrait de Marianne qui, semble-t-il, devait contrevenir à ses considérations monarchistes dans une république qui cherchait encore un peu sa voie. Pour conclure, véritablement, on voit que l'intérêt public local, l'intérêt général, la théorie des apparences ne sont qu'une idéologie, comme le disait très bien Jacques Chevalier à propos de l'idéologie de l'intérêt général. Ils essayent de démontrer une forme de neutralité des élus et des responsables qui auraient ce rôle d'arbitre au-dessus de la mêlée, ayant à arbitrer entre les intérêts de la société et se faisant d'une certaine façon le garant d'une forme de cohésion sociale. Mais cette idéologie de l'intérêt général est, comme ça a bien été démontré hier, une idéologie qui à cet égard est contestable. Pour conclure et rendre honneur au Shadok dont on a finalement assez peu parlé ces 2 dernières demi-journées, il me semble que pour combattre les effets négatifs du principe de neutralité, il faut appliquer cet adage, puisque les Shadoks sont surtout connus par leurs adages, pour qu'il y ait le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. François, quels sont tes ordres? Alors la parole est à vous. Oui, c'est Nikège.
De Julien et d'Étienne, si vous seriez d'accord avec l'idée que parfois, derrière ce que vous avez appelé la neutralité ou le principe de neutralité, il n'y aurait pas tout simplement quelque chose qui relèverait de questions de compétences. Et je pense par exemple, quand tu évoquais, Julien, la question de la possibilité pour des collectivités de financer des combats extérieurs dans le monde ou des mouvements revendicatifs, est-ce que la question, c'est pas tout bêtement, mais est-ce que c'est le rôle, est-ce que c'est la compétence des collectivités, ou s'agissant d'une compétence qui a trait aux relations internationales, c'est la compétence avant tout de l'État. Et je pensais un peu à la même chose sur un point plus technique, s'agissant de ton intervention, Étienne, qui concernait en particulier le critère social, parce que c'est une chose de privilégier des offres d'entreprises qui encouragent par exemple l'insertion des personnes handicapées ou des chômeurs de longue durée, mais c'est autre chose d'encourager celles dont on cherche à savoir si elles appliquent bien les règles de base de sécurité, de salubrité, etc. Et là aussi, la question, c'est pas tant de savoir si la procédure doit être neutre ou les critères doivent être neutres, que de savoir à qui revient-il de vérifier que les entreprises respectent les règles de base en matière de sécurité, de salubrité, etc. Et là, je me demande si la position qui consiste à dire que ces éléments-là ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre du critère social ne renvoie pas tout bêtement à l'idée que c'est à l'État, au législateur, de veiller au respect des réglementations minimales en matière sociale qu'il peut édicter. Voilà. Donc je me demandais si derrière la neutralité, il n'y avait pas bien souvent cette idée ou ce principe, cette exigence de répartition des compétences. Voilà.
Oui, alors pour ma part, s'agissant de ce principe, ce prétendu principe de neutralité de la commande publique, je pense que c'est tout à fait juste. Je pense que c'est ça qui explique que, d'ailleurs, le Conseil d'État soit sur ce point plus sévère, se montre plus sévère que la Cour de justice. C'est qu'il a le souci d'éviter que, à travers la commande publique, les personnes publiques, et plus particulièrement les collectivités territoriales, mènent toutes sortes de politiques qui excèdent leurs compétences, sachant que le grand enjeu de la décentralisation qu'on n'a jamais réussi pour l'instant à régler, c'est d'essayer de rationaliser les différentes compétences des collectivités territoriales, les différentes catégories de collectivités, notamment en matière économique. Et les dernières tentatives de la loi NOTRe qui instaure un schéma de cohérence économique et qui essaie de donner la priorité à la région montre très bien cela. Il y a une autre chose qui va tout à fait dans ce sens-là et dont je n'ai pas pu parler parce que évidemment le temps était limité, c'est que en fait on a aussi beaucoup de considérations d'intérêt général qui vont à l'encontre d'une neutralité purement économique de la commande publique et qui existe depuis très longtemps dans le droit de la commande publique. Ce sont les cas d'exclusion automatique d'un certain nombre d'opérateurs qui ont méconnu certaines réglementations, notamment les réglementations fiscales et sociales. Et ces seuls cas d'exclusion suffisent à montrer que cette idée d'une neutralité économique qui est celle selon laquelle la commande publique ne devrait pas créer des distorsions dans le fonctionnement du marché, c'est une idée qui ne tient absolument pas, déjà pour cette raison-là. Mais par contre, ces réglementations, ce sont des cas d'exclusion obligatoire qui sont imposés par la réglementation des marchés et qui s'imposent y compris aux collectivités publiques elles-mêmes. C'est-à-dire que les acheteurs publics n'ont pas le choix d'admettre ou de ne pas admettre des opérateurs qui auraient méconnu ces obligations. Ils sont automatiquement exclus. Et lorsque, transposant la directive, l'ordonnance de 2015 a ajouté un certain nombre de cas d'exclusion facultative, c'est-à-dire de cas dans lesquels le pouvoir adjudicateur a le choix d'exclure ou non certains candidats pour certains motifs, on voit bien que ce sont des motifs purement concurrentiels. Ça concerne uniquement ceux qui, pour lesquels il y aurait des raisons de penser qu'ils ont commis des ententes, ou ceux dont la participation au marché risquerait de fausser la procédure parce qu'ils ont eu des informations privilégiées. Donc, quand il y a une latitude d'action pour évincer des candidats d'un appel d'offres, on voit bien que c'est des motifs exclusivement concurrentiels.
Alors, peut-être pour compléter aussi la réponse d'Étienne, m'intéresse un peu au contrat de temps en temps, et comme ça, ce ne sera pas décompté de mon temps de parole, parce que ce n'est pas mon sujet. Il y a quand même un biais dans la question, il faut faire attention, parce que si je ne me trompe pas, je suis d'accord avec ta remarque, lorsqu'on prend l'hypothèse de l'affaire commune de Gravelines, où était en cause l'intervention d'un décret qui lui-même réglementait la prise en compte ou pas des critères sociaux. Toutefois, à raisonner sur la compétence, de proche en proche, on remonte jusqu'à celui qui est enfin et finalement compétent. Et celui qui est compétent, si l'on considère dans cette hypothèse-là que c'est le pouvoir normatif au niveau de l'Union européenne, lui, à un moment, fait un choix d'inclure ou pas ces considérations sociales et environnementales dans la législation ou pas, et son juge s'en fait le relais de sanctionner ou pas les différentes législations nationales qui l'intègrent ou pas. Et c'est parce que la jurisprudence de la Cour de justice a évolué que, alors que les textes finalement avaient une rédaction qui n'a pas profondément évolué au niveau du droit de l'Union européenne, des évolutions étaient possibles au niveau national. C'est différent du cas dans lequel on sanctionne une collectivité territoriale, c'était l'hypothèse du département de l'Isère, qui aurait pris l'initiative, elle, en dehors des textes, d'inclure des considérations sociales. Donc un raisonnement sur la compétence, il est valable quand on sanctionne un opérateur en particulier, mais quand on sanctionne les différentes normes susceptibles d'intervenir, il y a quand même bien un choix à la base du pouvoir normatif compétent. Et c'est plus une question de compétence.
C'est une question de compétence. Il y a la compétence du pouvoir normatif qui édicte la réglementation des marchés, mais ensuite il y a la compétence des acheteurs.
Oui,
et c'est ça l'enjeu, c'est que celle-là, il faut la...
Mais il y a eu un aller-retour dans la jurisprudence, le prisme d'approche n'étant pas toujours le même. On a beaucoup sanctionné les collectivités territoriales, mais à l'origine, on sanctionnait aussi le pouvoir réglementaire.
C'était le cas dans la commune de Gravine.
Je peux répondre à ma question maintenant, après.
Oui, de toute façon, moi, je crois que toute norme juridique est peu ou prou une norme de compétence. On peut tout ramener à la compétence.
Et oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. L'intérêt public local que j'invoquais est un principe répartiteur de compétences destiné à sauvegarder la compétence de l'État, les collectivités territoriales étant considérées, sans se lancer dans une grande discussion sur ce terrain-là, avoir une compétence d'attribution qui leur est attribuée par la loi, mais ça pourrait nécessiter un grand nombre de discussions. Mais oui, l'intérêt public local est un principe répartiteur de compétences et de sauvegarde de la compétence de l'État ou de contingentement de l'action des collectivités territoriales.